La mort les prévient, ces accidents. Et quand même, ils ne devraient pas nous arriver. C'est assez qu'il soit possible. Mais les hommes n'envisagent l'avenir que du bon côté. Il n'y en a point qui ne se promettent le sort de Metellus. Comme si le nombre des heureux passait celui des misérables. Qu'il y eût quelque sorte de stabilité dans les choses humaines et qu'il fût de la prudence d'espérer plutôt que de craindre. Accordons pourtant que la mort nous fasse perdre des biens. En conclurez-vous que les morts manquent de ces biens et que par conséquent ils souffrent? Mais de quoi peut manquer celui qui n'est pas? À ce mot « manquer », nous attachons une idée fâcheuse, parce que c'est comme si l'on disait « avoir, eu ou n'avoir plus, désirer, tâcher d'avoir, être dans le besoin ». Tout cela ne peut avoir lieu qu'à l'égard des vivants. Pour ce qui est des morts, on ne saurait dire que les commodités de la vie leur manquent, pas même la vie. Car, selon ce que nous supposons à présent, les morts ne sont rien. On ne dirait pas de nous, vivants, que nous manquons de plumes ou de griffes. Pourquoi? Parce que n'avoir pas des choses qui ne nous sont ni utiles ni convenables, ce n'est pas manquer. Il n'y a qu'à bien insister là-dessus, lorsqu'une fois on est convaincu que les âmes sont mortelles, et que par conséquent, à la mort, nous sommes tellement anéantis qu'on ne saurait nous soupçonner de conserver le moindre sentiment. Il n'y a, dis-je, qu'à bien examiner ce qu'on appelle manquer, et on verra que ce terme, pris dans son vrai sens, ne saurait être appliqué à un mort. Car manquer dit avoir besoin, et le besoin suppose du sentiment. Un mort est insensible, donc il ne manque point. Est-il nécessaire, après tout, de tant philosopher sur une chose qui, sans philosophie, se comprend assez, puisqu'on a vu tant de fois courir à une mort certaine, non pas nos généraux seulement, mais nos armées entières? Brutus, si la mort était à redouter, ne l'aurait pas affrontée dans une bataille pour empêcher le retour du tyran qu'il avait lui-même chassé. Jamais les trois décis ne se fussent jetés comme ils firent au milieu des ennemis. Le père en combattant contre les Latins, le fils contre les Étruriens, le petit-fils contre Pyrrhus. L'Espagne n'eut pas vu deux Scipions dans une même guerre verser leur sang pour la patrie. Paulus et Servilius n'auraient pas généreusement perdu la vie à Cannes, Marcellus à Vérouse, Albinus dans le pays des Latins, Gracchus dans la Lucanie. Quelqu'un d'eux souffre-t-il aujourd'hui? Dès l'instant même qu'ils eurent rendu le dernier soupir, ils cessèrent de pouvoir souffrir, car on ne souffre plus dès qu'on a perdu tout sentiment. Oui, mais perdre tout sentiment, n'est-ce pas quelque chose d'affreux? Oui, si celui qui a perdu le sentiment connaissait qu'il l'a perdu. Mais puisqu'il est clair que le non-être n'est susceptible de rien, il n'y a donc rien de fâcheux pour qui n'est pas et ne sent pas. C'est trop souvent le répéter. Il est pourtant à propos d'y revenir parce que c'est faute d'y faire attention que l'on craint la mort. Car si l'on voulait bien comprendre ce qui est plus clair que le jour, qu'après la destruction de l'âme et du corps, l'animal est si parfaitement anéanti que dès lors il n'est absolument rien, on verrait qu'il n'y a nulle différence aujourd'hui entre un hippocentaure qui n'exista jamais et le roi Agamemnon qui existait autrefois. Et que Camille n'est aujourd'hui pas plus sensible à notre guerre civile que moi, de son vivant, je l'étais à la prise de Rome. Et pourquoi cependant Camille se fut-il affligé s'il eût prévu qu'environ 350 ans après lui nous serions en guerre les uns avec les autres? Et pourquoi me chagrinerais-je si je prévoyais que dans 10 000 ans une nation barbare envahira l'Empire romain? Parce que l'amour que nous portons à la patrie se mesure non sur la part que nous aurons à son sort, mais sur l'intérêt que nous prenons à son salut. Quoiqu'à toute heure 1000 accidents nous menacent de la mort, et que même sans accident, elle ne puisse jamais être bien éloignée, vu la brièveté de nos jours. Cependant, elle n'empêche pas le sage de porter ses vues le plus loin qu'il peut dans l'avenir, et de regarder l'avenir comme étant à lui, en tant que la patrie et les siens y sont intéressés. Tout mortel qu'il se croit, il travaille pour l'éternité. Et le motif qui l'anime, ce n'est pas la gloire, car il sait qu'après sa mort, il s'y sera insensible. Mais c'est la vertu, dont la gloire est toujours une suite nécessaire, sans que l'on y ait même pensé. Tel est effectivement l'ordre de la nature, que tout commence pour nous à notre naissance et que tout finit pour nous à notre mort. Comme rien avant notre naissance ne nous intéressait, de même rien après notre mort ne nous intéressera. Que craignons-nous donc, puisque la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts? Rien pour les morts, car ils ne le sont plus. Rien pour les vivants, car ils ne sont pas encore dans le cas de l'éprouver. Ceux qui veulent adoucir cette idée d'anéantissement disent que la mort ressemble au sommeil. Mais souhaiteriez-vous 90 années de vie à condition de passer les 30 dernières à dormir? Un porc n'en voudrait pas. Endymion, si l'on en croit la fable, s'endormit il y a je ne sais combien de siècles sur le mont Latmos en Carie, où peut-être dort-il encore. Ce fut, dit-on, la lune qui, pour pouvoir le baiser plus à son aise, le jeta dans ce profond sommeil. Or, pensez-vous que lorsqu'elle s'éclipse, il s'en inquiète? Mais comment s'en inquiéterait-il, puisqu'il n'y a pas un peu sentiment? Voilà l'image de la mort, le sommeil. Et vous doutez si la mort nous prive de sentiment? Vous qui, tous les jours, expérimentez que le sommeil, qui n'en est que l'image, opère le même effet? Peut-on, après cela, donner dans le préjugé ridicule qu'il est bien triste de mourir avant le temps? Et de quel temps veut-on parler? De celui que la nature a fixé? Mais elle nous donne la vie, comme on prête de l'argent, sans fixer le terme du remboursement. Pourquoi trouver étrange qu'elle la reprenne quand il lui plaît? Vous ne l'avez reçue qu'à cette condition? Qu'un petit enfant meure, on s'en console. Qu'il en meure un au berceau, on n'y songe seulement pas. Et c'est pourtant d'eux que la nature a exigé le plus durement sa dette. Mais, dit-on, il n'avait pas encore goûté les douceurs de la vie, au lieu que tel autre, pris dans un âge plus avancé, se promettait une fortune riante et déjà commençait à en jouir. Mais d'où vient qu'il n'en est donc pas de la vie comme des autres biens dont on aime mieux voir avoir une partie que de manquer le tout? Priam, dit Callimaque, et c'est une étrange, sage réflexion, Priam a plus souvent pleuré que Troïlus. On a loué la destinée de ceux qui meurent de vieillesse. Par quelle raison? Il me semble au contraire que si les vieillards avaient plus de temps à vivre, c'est eux dont la vie serait la plus agréable. Car de tous les avantages dont l'homme peut se flatter, la prudence est certainement la plus satisfaisante. Et quand il serait vrai que la vieillesse nous prive de tous les autres, du moins nous procure-t-elle celui-là? Mais qu'appelle-t-on vivre longtemps? Et qu'y a-t-il pour nous qu'on puisse appeler durable? Il n'y a qu'un pas de l'enfance à la jeunesse, et notre course est à peine commencée que la vieillesse nous atteint sans que nous y pensions. Comme la vieillesse est notre borne, nous appelons cela un grand âge. Vous n'êtes censé vivre peu ou beaucoup que relativement à ce que vivent ceux-ci ou ceux-là. Aristote dit que sur les bords du fleuve Hypanis, qui tombe du côté de l'Europe dans le pont Euxin, il se forme de certaines petites bêtes qui ne vivent que l'espace d'un jour. Celle qui meurt à 2 heures après-midi meurt bien âgée, et celle qui va jusqu'au coucher du soleil meurt décrépite, surtout un grand jour d'été. Si vous comparez avec l'éternité la vie de l'homme la plus longue, vous trouverez que ces petites bêtes y tiennent presque autant de place que nous. Méprisons donc toutes ces faiblesses. Mais quel autre nom donner aux idées que l'on se fait d'une mort prématurée ? Cherchons la félicité de la vie dans la constance, dans la grandeur d'âme, dans le mépris des choses humaines, dans toutes sortes de vertus. Et quoi, de vaines imaginations nous efféminent ? Que les Chaldéens nous aient fait de belles promesses, nous croyons, si la mort en provient les faits, avoir été trahis et réellement volés. Dans l'attente de ce qui nous arrivera, nos désirs sont sans cesse balancés par nos craintes, et ce n'est qu'angoisse et que perplexité. Heureux le moment après lequel nous n'aurons plus d'inquiétude, plus de soucis. Que j'aime à me représenter le grand courage de Théramène. Car sa mort, quoi qu'on ne puisse la lire sans pleurer, n'est pourtant digne que d'admiration et nullement de pitié. Ayant été mis en prison par l'ordre des 30 tyrans, il avala, comme s'il avait eu soif, la liqueur empoisonnée. Et après avoir bu, il jeta ce qui en restait de manière que cela fît un peu de bruit. « Je la porte, dit-il en souriant, au beau Critias, qui avait été de tous ses juges le plus acharné à sa perte. » Les Grecs ont cette coutume dans leur festin de nommer quand ils ont bu. Celui à qui la coupe doit passer. Ce grand homme, lorsque déjà le poison connaît dans ses veines, plaisanta, et bientôt après sa mort, celle de Critias vérifia son présage. Une intrépidité si marquée et poussée si loin, mériterait-elle nos louanges si la mort était un mal ? À quelques années de là, Socrate, livré à des juges aussi injustes que l'avaient été les tyrans à l'égard de Théramène, est mis dans la même prison et condamné à boire dans la même coupe. Quel discours donc tient-il à ses juges après que sa sentence lui a été prononcée ? Le voici, tel que Platon l'a rendu. Je suis véritablement plein de cette espérance que la mort qui m'attend sera un avantage pour moi. Car il faut nécessairement l'un des deux, ou qu'à la mort nous perdions tout sentiment, ou qu'en sortant de ces lieux nous allions en d'autres. Si donc nous perdons tout sentiment et que la mort ressemble à un profond sommeil, dont la tranquillité n'est troublée par aucun songe, bon Dieu, que l'on gagne à mourir ! Y a-t-il bien des jours qui soient préférables à une nuit passée dans un si doux sommeil ? Et supposez qu'après la mort, toute l'éternité ressemble à une telle nuit, quel homme plus heureux que moi ? Mais si, comme on dit, la mort nous envoie dans un séjour destiné à une autre vie, c'est un bonheur plus grand encore. Échapper entre les mains de juges qui n'en ont que le nom, se trouver devant Minos, Radamant, Théâque, Triptolème, qui sont de véritables juges, et n'avoir plus de commerce qu'avec des âmes qui ont toujours chéri la justice et la probité ? Mais que pensez-vous d'un voyage dont le terme est si agréable ? Vous paraît-il que de pouvoir converser avec Orphée, avec Musée, avec Homère, Hésiode, cela soit à compter pour peu ? Je voudrais, s'il était possible, mourir plusieurs fois pour arriver où l'on jouit de cette félicité. Quel charme pour moi d'y voir Palamède, Ajax, tant d'autres qui ont été injustement condamnés. Il me semble qu'à nous conter nos aventures, nous y trouverions un plaisir réciproque. Mais un plaisir que je mettrais au-dessus de tous, ce serait d'y passer le temps à interroger, à examiner les uns et les autres, comme j'ai fait ici pour démêler ceux qui ont été véritablement sages, d'avec ceux qui, ne l'étant pas, se piquaient de l'être. J'y étudierai, par exemple, quelle a été la sagesse du roi Agamemnon, celle d'Ulysse, de Sisyphe, d'une infinité d'autres hommes et femmes. Et pour avoir fait cet examen, il ne m'arriverait point, comme ici, d'être condamné au dernier supplice. juge qui avez été de l'avis de m'absoudre, ne vous faites pas non plus une idée terrible de la mort. Un homme de bien, ni pendant la vie ni après la mort, ne peut recevoir de mal. Jamais les dieux immortels ne l'abandonnent. Et ce qui m'arrive à moi n'est point l'effet du hasard. Je ne me plains ni de ceux qui m'ont accusé, ni de ceux qui m'ont condamné, ou si j'ai à m'en plaindre, c'est seulement parce que leur intention était de me nuire. La fin de son discours mérite encore plus d'attention. Il est temps, dit-il, que nous nous séparions, moi pour mourir, vous pour continuer à vivre. Des deux, lequel est le meilleur? Les dieux immortels le savent, mais je crois qu'aucun homme ne le sait. Que cette fermeté de Socrate est bien, selon moi, préférable à toute la fortune de ceux qui le condamnèrent. Du reste, quoi qu'ils disent que les dieux savent eux seuls lequel vaut le mieux de la vie ou de la mort, ce n'est pas qu'il ne le sache très bien lui-même, car il s'en est expliqué auparavant. Mais comme c'était sa coutume de ne rien affirmer, il la garde jusqu'au bout. Pour nous, tenons-nous-en à cette maxime que rien de tout ce qui est donné par la nature à tous les hommes n'est un mal. Et comprenons que si la mort était un mal, ce serait un mal éternel. Car d'une vie misérable, la mort en paraît être la fin. Au lieu que si d'autres misères suivent la mort, il n'y a plus de fin à espérer. Mais devais-je recourir à Socrate et à Théramène, deux hommes d'une si rare vertu et d'une sagesse si renommée, puisque ce grand mépris de la mort se vit dans un simple lacédémonien, dont même le nom n'est pas venu jusqu'à nous? Condamné au dernier supplice par les efforts, il s'y rendait d'un air gai et riant lorsqu'un de ses ennemis lui dit « Est-ce que tu méprises les lois de Lycurgue ?» À quoi il répond « Bon, j'ai au contraire bien des grâces à lui rendre, ce qu'il m'a donné une amende que je puis payer sans emprunt. Vrai lacédémonien et qui fait honneur à sa patrie. J'ai peine à croire qu'avec cette fermeté d'esprit, il pût n'être pas innocent. Rome a fourni une infinité de grands courages, mais n'aurais-je pas tort de vanter ici nos généraux et ceux qui ont eu les premiers emplois dans nos armes, puisque Caton écrit que souvent des légions entières sont allées avec joie dans des lieux d'où elles croyaient ne devoir pas revenir. Telle fut l'intrépidité de ces lacédémoniens qui périrent aux Thermopyles et que Simonide fait ainsi parler dans leur épitaphe. Passant, qui nous vois ici, va dire à Sparte que nous y sommes morts en obéissant aux lois saintes de la patrie. Quel discours leur tient Léonidas, leur chef? Lacédémoniens, marchons hardiment, ce soir peut-être nous souperons chez les morts. Un d'eux, ayant entendu qu'un Perse disait par bravade « Nous darderons tant de flèches qui ne verront pas le soleil. »« Eh bien, reprit-il, nous nous battrons à l'ombre. » Je ne parle là que des hommes. Et quelle fermeté dans cette lacédémonienne qui, apprenant que son fils avait été tué dans un combat, « Voilà, dit-elle, pourquoi je l'avais mise au monde, c'était pour défendre sa patrie au prix de son sang. » Tant que les lois de Lycurgue furent en vigueur à Sparte, il y eut de la valeur. L'éducation, il faut l'avouer, servait fort à en faire des hommes courageux et durs à eux-mêmes. Mais n'admirons-nous pas Théodore de Cyrène, célèbre philosophe, qui, menacé par le roi Lysimaque d'être pendu à une croix, intimidez, lui dit-il, vos courtisans avec de telles menaces. Pour Théodore, il lui est indifférent qu'ils pourrissent ou dans la terre ou dans l'air. Réponse qui me fait songer qu'il est à propos de parler ici de la sépulture et des funérailles. Il n'y a qu'un mot à en dire, surtout après ce que nous venons de voir, que les morts ne sentent rien. On voit dans le Phédon, que j'ai déjà tant cité, de quelle manière Socrate pensait sur ce sujet. Quand il eut bien raisonné sur l'immortalité de l'âme, et que déjà son dernier moment approchait, Criton lui demanda comment il souhaitait d'être enterré. « Mes amis, reprit Socrate, je me suis donné une peine bien inutile puisque je n'ai pas persuadé à notre cher Criton que je m'envolerais d'ici et que je lui laisserais rien de moi. Cependant, Criton, si vous pouvez me rejoindre ou si vous me trouvez quelque part, ordonnez comme il vous plaira de ma sépulture. Mais croyez-moi, aucun de vous ne m'atteindra quand je serai parti d'ici. » Une parfaite indifférence de sa part, une entière liberté à son ami, rien de mieux. Diogène pensait de même, mais en qualité de cynique, il n'est plus durement expliqué. « Qu'on me jette, dit-il, au milieu des champs. » « Pour être dévoré par les vautours ?» repartent ses amis. « Point du tout. Mettez auprès de moi un bâton pour les chasser. » « Mais comment les chasser, ajoutèrent-ils, puisque vous ne les sentirez pas ?»« Ben, si je ne les sens pas, reprit Diogène, quel mal donc me feront-ils en me dévorant ?» Anaxagore, étant dangereusement malade à Lampsac, ses amis lui demandèrent s'il voulait être reporté à Clazomène, sa patrie. Il leur répondit très bien, « Cela n'est pas nécessaire. » Car de quelque endroit que ce soit, on est également proche des enfers. À ce sujet donc, la seule réflexion à faire, c'est que la sépulture ne regarde que le corps, soit que l'âme périsse avec le corps, soit qu'elle lui survive. Or, dans l'un et l'autre cas, il est certain que le corps ne conserve point de sentiments. Mais tout est rempli d'erreurs. Achille traîne Hector attaché à son char. Apparemment, il se figure qu'Hector le sent. Il croit par là se venger. Et l'on se récrit là-dessus comme sur la chose du monde la plus douloureuse. À la suite d'un char, ah, j'en frémis encore, quatre coursiers traînaient le redoutable Hector. Quel Hector ? Et pour combien de temps sera-t-il Hector ? Un autre de nos poètes fait parler Achille plus sagement. De son illustre fils, Priam n'a que le corps, et j'ai précipité son âme au sombre bord. Votre char, Achille, ne traînait donc pas Hector, il ne traînait qu'un corps qui avait été celui d'Hector. Un autre, sortant de dessous terre, réveille sa mère et lui dit « Ô vous, dont le sommeil tient l'essence assoupie, ma mère, écoutez-moi, prenez pitié d'un fils. » Quand ces vers sont récités d'un ton lugubre et qui émeut tous les spectateurs, il est difficile de ne pas croire digne de pitié ceux à qui les devoirs funèbres n'ont pas été rendus. Souffrez que d'un bûcher les flammes honorables dérobent aux vautours mais restent déplorables. Il craint que, si ses membres sont déchirés, il ne puisse s'en servir, mais il ne craint pas si on les brûle. Et ne les laissez pas, sur ces champs désolés, traîner d'un roi sanglant les os demi-brûlés. Puisqu'il récite de si beaux vers au son de la flûte, je ne vois pas de quoi il a peur. Un principe certain, c'est qu'on ne doit point se mettre en peine de ce qui arrive après la mort, quoi qu'il y ait des fous qui étendent leur vengeance jusque sur le cadavre de leur ennemi. Thieste, dans une tragédie d'Ennius, faisant des imprécations contre Atrée, lui souhaite de périr par un naufrage. C'est lui souhaiter un affreux genre de mort et qui fait cruellement souffrir. Mais ce qu'il ajoute, que poussé sur un roc de pointe hérissé, il meurt furieux de mille coups percés, que de leur sang impur ses entrailles livides noircissent les ronces arides, C'est une imprécation bien vaine, car le rocher où il veut qu'on l'attache n'est pas plus insensible que le cadavre, pour lequel il s'imagine que ce sera un grand tourment d'y être attaché. La peine serait horrible pour qui la sentirait, elle est nulle pour qui ne sent rien. Et il ajoute encore une autre chose, qui n'est pas moins frivole, et qu'exclu de la tombe, il soit privé du port qui nous met à l'abri des atteintes du sort. Quelle erreur de se figurer que le tombeau soit comme un port où le cadavre est à l'abri et où le mort prend du repos. Pélops n'est pas excusable d'avoir si mal endoctriné son fils et de ne lui avoir pas donné de plus saines idées. Mais pourquoi nous arrêter aux opinions de quelques particuliers ? Tous les peuples ont leurs préjugés. Les Égyptiens embaument les morts et les gardent dans leurs maisons. Les Perses les enduisent de cire pour les conserver le plus qu'ils peuvent. Les mages n'enterrent les leurs qu'après les avoir fait déchirer par des bêtes. En Hyrcanie, on croit que d'être mangé par un chien, c'est le tombeau le plus honorable. Ils ont pour cet effet une espèce particulière de chien dont ils font grand cas. Les riches en nourrissent chez eux pour leur personne. Il y en a de nourris pour le commun aux frais du public, et chacun, selon ses facultés, pourvoit à ce qu'il soit déchiré après sa mort. Chrysippe, qui se plaisait fort aux recherches historiques, parle de quantité d'autres coutumes semblables, mais parmi lesquelles il s'en trouve de si vilaines que j'aurais horreur de les rapporter. On voit donc partout ce que j'ai dit, que nous n'avons point à nous inquiéter de nos funérailles. Mais d'un autre côté aussi, nous ne devons pas négliger celle de nos proches, quoique les morts ne sachent point ce qui se fait pour eux. C'est aux vivants à regarder ce qu'ils doivent en pareil cas à la bienséance et à la coutume. Persuadés que c'est leur affaire propre et que les morts n'y sont intéressés en rien. Quant aux mourants, ce leur est une ressource bien consolante que le souvenir d'une belle vie. En quelque temps que meurt un homme qui a toujours fait tout le bien qu'il a pu, il n'a point à se plaindre de n'avoir pas vécu assez. Pour moi, je me suis vu en diverses conjonctures où ma mort se fut placée bien à propos, et plût à Dieu qu'elle n'eût pas tardé à venir. Je ne pouvais m'acquérir une plus haute réputation. J'avais rempli tous les devoirs de la société. Il ne me restait qu'à combattre la fortune. Aujourd'hui donc, si ma raison n'a pas la force de m'aguerrir contre la mort, je n'ai qu'à me remettre devant les yeux ce que j'ai fait, et je trouverai que ma vie n'aura pas été trop courte à beaucoup près. Car enfin, quoique l'anéantissement nous rende insensibles, cependant la gloire qu'on s'est acquise est un bien dont il ne nous prive pas, et quoiqu'on ne recherche point la gloire directement pour elle-même, elle ne laisse pourtant pas de marcher toujours à la suite de la vertu, comme l'ombre à côté du corps. Il est bien vrai que quand les hommes s'accordent unanimement à louer les vertus d'un mort, ces louanges font plus d'honneur à ceux qui les donnent qu'elles ne servent à la félicité de celui qui en est l'objet. Mais après tout, de quelque manière qu'on l'entende, je ne saurais dire qu'aujourd'hui Lycurgue et Solon n'aient pas la gloire d'avoir été de grands législateurs, que Thémistocle et Qu'Épaminondas n'aient pas celle d'avoir été de grands guerriers. Plutôt Salamine sera ensevelie dans la mer qu'on ne perdra le souvenir de la victoire remportée à Salamine. Et plutôt la ville de Leuctre sera détruite que la bataille de Leuctre ne tombera dans l'oubli. Des noms encore plus durables sont ceux de Curius, de Fabricius, de Calatinus, des deux Scipions, des deux Africains, de Maximus, de Marcellus, de Paulus, de Caton, de Lélius et de bien d'autres Romains. Quiconque sera parvenu à retracer en soi quelques-unes de leurs vertus et non pas dans l'esprit du peuple mais au jugement des sages, Il n'a, si l'occasion s'en présente, qu'à marcher d'un pas intrépide à la mort, persuadé que mourir est le souverain bien, ou que du moins, ce n'est pas un mal. Il souhaitera même d'être surpris au milieu de ses prospérités, parce que le plaisir de les accroître ne saurait être aussi vif pour lui que le chagrin qu'il risque d'en déchoir. Et c'est apparemment ce qu'un lacédémonien voulait faire entendre à Diagoras de Rhodes, lequel, après avoir été autrefois couronné lui-même aux Jeux olympiques, eut la joie d'y voir ses deux fils couronnés dans une même journée. Il aborda le vieux athlète et dans son compliment « Mourez, lui dit-il, car vous ne monterez pas au ciel. » On attache parmi les Grecs, ou plutôt anciennement, on attachait à ces sortes de victoires beaucoup d'honneur, peut-être trop. Ainsi, ce lacédémonien jugeait qu'une famille qui avait elle seule remporté 3 prix olympiques ne pouvait aspirer à rien de plus grand, et que Diagoras, par conséquent, serait heureux s'il ne demeurait pas plus longtemps exposé au coup de la fortune. Je vous avais d'abord répondu en peu de mots. Et ce peu vous suffisait à vous, car vous étiez convenu qu'après la mort on ne souffrait pas. J'ai poussé ensuite mes réflexions plus loin, exprès pour avoir de quoi nous consoler quand nous venons à perdre quelqu'un de nos amis. Si nos intérêts en souffrent et que ce soit là ce qui cause notre affliction, il faut y mettre des bornes pour n'en pas laisser voir le principe qui est l'amour de nous-mêmes. Mais ce sera un tourment affreux, intolérable, si nous avons dans l'esprit que les personnes qui sont l'objet de nos regrets conservent du sentiment et se trouvent plongées dans ces horreurs dont le peuple se forge l'idée. J'ai voulu me désabuser là-dessus une bonne fois pour toutes, et de là vient que peut-être j'ai été trop long. L'auditeur. Vous trop long ? Oh non, du moins ce n'a pas été pour moi. Pour la première fois de votre discours, vous m'avez fait désirer la mort. Par la dernière, vous me l'avez fait regarder, ou avec indifférence, ou avec mépris. Et ce qui résulte enfin de ce que j'ai entendu, c'est que la mort, bien sûrement, ne doit pas être comptée au nombre des maux. Attendez-vous que, suivant les préceptes de la rhétorique, je fasse une péroraison? Ou plutôt ne faut-il pas que je renonce pour jamais à tout ce qui sent l'orateur ? Vous auriez tort de renoncer à un art qui vous doit une partie de sa gloire. Et pour le dire franchement, vous lui devez la vôtre. Ainsi, voyons cette péroraison, j'en suis curieux. On a coutume dans les écoles de faire voir quelle opinion les dieux ont de la mort. Et cela non par des fictions, mais par des récits tirés d'Hérodote et de plusieurs autres auteurs. On raconte surtout la fameuse histoire d'une prêtresse d'Argos et de Cléobis, ébitant ses enfants. Un jour de sacrifice solennel, cette prêtresse, devant se trouver dans le temple à heure marquée et les bœufs qui devaient la conduire tardant trop à venir, ses deux enfants aussitôt quittèrent leurs habits, se frottèrent d'huile et, s'étant attelés eux-mêmes, traînèrent le char jusqu'au temple qui était assez éloigné de la ville. Quand la prêtresse fut arrivée, elle pria Junon de leur accorder en reconnaissant de leur amour filial le plus grand bien qui puisse arriver à l'homme. Ils soupèrent avec leur mère, ils s'endormirent après et le lendemain matin on les trouva morts. Trophonius et Agamène firent, dit-on, une prière semblable après qu'ils eurent bâti le temple de Delphes. En récompense d'un travail si considérable, ils demandèrent à Apollon ce qui pouvait leur être le plus avantageux sans rien spécifier. Apollon leur fit entendre qu'à 3 jours de là, ils seraient exaucés. Et le 3e jour, on les trouva morts. D'où l'on infère qu'Apollon, ce dieu à qui tous les autres dieux ont donné en partage la connaissance de l'avenir, a jugé que la mort était le plus grand bien de l'homme. On rapporte aussi de Silène qu'ayant été pris par le roi Midas, il lui enseigna, comme une maxime d'assez grand prix pour payer sa rançon, que le mieux qui puisse arriver à l'homme, c'est de ne point naître, et que le plus avantageux pour lui, quand il est né, c'est de mourir promptement. Euripide, dans une de ses tragédies, a employé cette pensée. Qu'à l'un de nos amis un enfant vienne à naître, loin de fêter ce jour ainsi qu'un jour heureux, on devrait au contraire en pleurer avec eux. Mais si ce même enfant aussitôt cessait d'être, c'est alors qu'il faudrait, en bénissant le sort, aller fêter le jour d'une si prompte mort. Il y a quelque chose de semblable dans la consolation de Cranteur, où il est dit qu'un certain Élysius de Tyrine, au désespoir d'avoir perdu son fils, alla, pour savoir la cause de sa mort, dans un lieu où l'on évoque les ombres, et que là, pour réponse, on lui donna ces vers par écrit. La mort est un bien désirable, les hommes dans l'erreur connaissent peu ce bien. Ton cher fils en jouit par un sort favorable, c'est son avantage et le tien. Voilà sur quelles autorités on dit dans les écoles que les dieux ont décidé cette question. Et nous avons même l'éloge de la mort, composé par Alcide Hamas, qui fut un des grands rhéteurs de l'Antiquité. Il a bâti son discours sur l'énumération des misères humaines. Les raisons spéculatives des philosophes ne s'y trouvent pas, mais, du côté de l'éloquence, le discours a son mérite. Toutes les fois que les autres rhéteurs parlent des morts, souffertes pour la patrie, ils en parlent comme des morts, non seulement glorieuses, mais heureuses. Ils exaltent la mort d'Érectée, de ses fils, qui eurent le courage de prodiguer leur vie pour le salut des Athéniens. Ils exaltent la mort de Codrus, qui, avant n'être point reconnu à ses habits royaux, se déguisa en esclave et se jeta au milieu des ennemis, parce que l'oracle avait répondu qu'Athènes remporterait la victoire si son roi était tué dans le combat. Il n'oublie pas Ménécée, qui, sur un oracle à peu près semblable, versa son sang pour sa patrie. Il comble d'éloges Iphigénie, qui se fit conduire en Aulide et demanda d'y être immolé pour acheter au prix de ses jours la perte des ennemis. Et de là, passant à des temps moins reculés, il célèbre la mémoire d'Harmodius et d'Aristogiton, celle de Léonidas parmi les Spartiates, celle d'Épaminondas parmi les Thébains. Et combien y a-t-il de nos Romains qui ont regardé une mort accompagnée de gloire comme le plus digne objet de leur désir? Mais les rhéteurs grecs n'en font pas mention parce qu'ils ne les connaissent point. Après de si grands exemples, ne laissons pas d'employer toutes les forces de l'éloquence comme si nous haranguions du haut d'une tribune, pour obtenir des hommes ou qu'ils commencent à désirer la mort ou que du moins ils cessent de la craindre. Car enfin, si elle ne les anéantit pas, et qu'en mourant ils ne fassent que changer de séjour, y a-t-il rien de plus désirable pour eux? Et si elle les anéantit, quel plus grand avantage que de s'endormir au milieu de tant de misères et d'être doucement enveloppé d'un sommeil qui ne finit plus? Je trouve, cela étant, que notre Ennius, lorsqu'il disait « qu'on ne me rende point de funèbres hommages », parlait mieux que le sage Solon qui, au contraire, dit « qu'au jour de mon trépas, tous mes amis en deuil gémissent et de pleurs arrosent mon cercueil ». Pour nous, au cas que nous recevions du ciel quelque avertissement d'une mort prochaine, obéissons avec joie, avec reconnaissance, bien convaincus que l'on nous tire de prison et que l'on nous ôte nos chaînes, afin qu'il nous arrive, ou de retourner dans le séjour éternel, notre véritable patrie, ou d'être à jamais quitte de tout sentiment et de tout mal. que si le ciel nous laisse notre dernière heure inconnue, tenons-nous dans une telle disposition d'esprit que ce jour, si terrible pour les autres, nous paraisse heureux. Rien de ce qui a été déterminé, ou par les dieux immortels, ou par notre commune mère, la nature, ne doit être compté pour un mal. Car enfin, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une cause aveugle qui nous a créés, mais nous devons l'être certainement à quelque puissance qui veille sur le genre humain. Elle ne s'est pas donné le soin de nous produire et de nous conserver la vie pour nous précipiter, après nous avoir fait éprouver toutes les misères de ce monde, dans une mort suivie d'un mal éternel. Regardons plutôt la mort comme un asile, comme un port qui nous attend. Plût à Dieu que nous y fussions menés à pleine voile. Mais les vents auront beau nous retarder, il faudra nécessairement que nous arrivions, quoique un peu plus tard. Or, ce qui est pour nous une nécessité, serait-il pour moi seul un mal? Vous me demandiez une péroraison, en voilà une, afin que vous ne m'accusiez pas d'avoir rien omis. L'auditeur. Je sens qu'elle me donne encore de nouvelles forces contre les approches de la mort. J'en suis ravi. Mais présentement, songeons à prendre un peu de repos. Demain, et tout le temps que nous serons à Tusculum, nous continuerons nos entretiens, et surtout nous travaillerons à nous guérir de nos chagrins, de nos erreurs, de nos passions. C'est de toute la philosophie ce qu'on peut recueillir de plus utile.